Shieldcast présente l'analyse longue, thème du jour, économie et l'opportunité, avec Victor et Marc. Bonne écoute.
Et ce contraste, je pense, c'est vraiment le cœur de la journée. Mais commençons par les faits. SpaceX, donc. Introduction en bourse le 12 juin à 135 dollars l'action. Mercredi, on est à plus de 190, soit près de 50% en 5 jours. Capitalisation qui dépasse celle d'Amazon, ce qui fait de SpaceX la cinquième entreprise mondiale en valeur boursière.
On va prendre le temps aujourd'hui sur trois articles qui, mis bout à bout, racontent une même histoire, ce que les marchés financiers valorisent en 2026 et ce qu'ils ne valorisent pas. Premier article, Grand Continent. 5 jours après son introduction en bourse, SpaceX dépasse Amazon en capitalisation. Deuxième, Cory Doctorow, qui reprend une chronique de John Quiggin sur ce qu'il appelle la théorie de l'économie morte, Moore et Ward. Et en miroir, un papier d'Asterisk Magazine, Engineering Peace, sur ce qu'on sait empiriquement de la prévention des conflits dans les pays pauvres. La thèse, en une ligne, pendant qu'on injecte 1 000 milliards dans des mêmes stocks, on laisse à l'abandon des leviers de croissance et de stabilité dont on connaît désormais l'efficacité mesurée.
Et de l'autre côté du bilan, l'entreprise a déclaré dans son propre dossier d'introduction en bourse 4,9 milliards de pertes pour 19 milliards de chiffre d'affaires sur le dernier exercice. Amazon, à titre de comparaison, c'est 717 milliards de chiffre d'affaires. 40 fois plus. Donc oui, on parle d'une valorisation qui n'a quasiment aucun rapport avec l'activité économique sous-jacente.
Avec un détail qui change tout. Moins de 5% des actions étaient effectivement disponibles au premier jour. Le reste est bloqué par des clauses de lock-up. Musk lui-même ne peut rien vendre avant un an. Donc on a un prix de marché fixé sur une offre artificiellement restreinte.
Pesons honnêtement les deux lectures possibles. Option 1, la lecture optimiste. SpaceX a un quasi-monopole sur le lancement orbital. Starlink est un service réel avec des millions d'abonnés et les investisseurs payent pour une option sur l'espace au sens large, Mars compris. C'est cher, mais ce n'est pas du vent. Option 2, la lecture Krugman-Quiggin. C'est de la pure spéculation autoréférentielle. On achète parce qu'on pense que quelqu'un d'autre achètera plus cher demain.
Krugman, cité dans l'article du Grand Continent, parle de « même stock », une action qui monte parce qu'elle est virale, pas parce qu'elle produit de la valeur. Et il fait le parallèle explicite avec les cryptos adossés à Trump qui ont flambé puis se sont effondrés.
Et c'est exactement là que Doctorow prend le relais, dans Pluralistic du 17 juin. Lui s'appuie sur un texte de l'économiste John Quiggin et propose ce qu'il appelle, en empruntant l'expression à Owen McGran, la « dead economy theory ». L'idée centrale, les marchés financiers ont abdiqué leur fonction première, qui était de valoriser correctement les actifs.
Ce qui penche fortement vers l'option 2, c'est précisément la décorrélation entre les pertes opérationnelles et la valorisation. Une entreprise qui perd 5 milliards par an, à laquelle on attribue une valeur supérieure à Amazon, ça n'est plus de l'évaluation d'actifs, c'est un jeu de chaises musicales.
Doctorow ajoute un point que je trouve important. Goldman Sachs, qui était il y a 10 ans la banque la plus prudente sur les cryptos, est aujourd'hui totalement à l'intérieur de la machine. Elle a co-signé le prospectus de SpaceX qui annonce une multiplication par 100 de la valeur des actifs de Musk en 40 mois. Une banque d'investissement sérieuse qui valide ça publiquement, c'est un signal institutionnel.
Quiggin sort une statistique qui fait réfléchir. Musk, en 2020, c'était 20 milliards de patrimoine nominal. Aujourd'hui, 1 000 milliards. Multiplié par 50 en 6 ans. Et Quiggin note, plutôt cruellement, que tout ce que Musk a entrepris depuis 2020 a échoué commercialement. Starship qui explose, le Cybertruck qui ne se vend pas, les robotaxis qui n'existent pas, Twitter qui perd de l'argent. Le Musk d'avant 2020, celui de Tesla et de Starlink, faisait des choses qui fonctionnaient. Le Musk d'après, c'est une succession de flops. Et pourtant, la valorisation a été multipliée par 50.
Là, on a un vrai problème d'allocation de capital à l'échelle de la société. Reprenons calmement. Le capital privé, légalement, va où il veut. Si des gens veulent acheter SpaceX à 190 dollars, c'est leur droit. Mais quand cette logique contamine la décision publique, quand on ferme la recherche sur le cancer parce que GPT va le faire, on prend une décision dont les conséquences agrégées sont énormes. Le cancer tue, concrètement, des centaines de milliers de personnes par an. La recherche médicale a un retour social documenté. L'AGI qui guérit le cancer, c'est une promesse, pas un actif.
Et l'angle qui me parle le plus dans Doctorow, c'est la mise en parallèle avec l'IA. Quand les équipes du DOGE ont fermé des programmes de recherche du NIH, des chercheurs leur ont expliqué que ces programmes travaillaient sur des cancers. La réponse aurait été « pas besoin ». L'intelligence artificielle générale va arriver et guérir le cancer. Donc, on coupe la recherche médicale réelle, mesurable, validée par essais cliniques, pour financer un pari sur une technologie qui n'existe pas encore.
Et c'est précisément ce qui rend le troisième article si saisissant par contraste. Asterisk Magazine, Engineering Peace. Le sujet, la consolidation de la paix, le peace building dans les pays en développement. Et la thèse de l'article, c'est qu'on est passé, depuis le milieu des années 2000, d'un art à une science.
Et c'est là qu'il faut citer Habermas, même rapidement. Une sphère publique qui ne distingue plus entre une promesse virale et une preuve empirique. C'est une sphère publique qui prend de très mauvaises décisions collectives. Le problème n'est pas que des gens spéculent, c'est que les institutions, banques, agences fédérales, médias, ont arrêté de faire le tri.
Ce qui a changé, c'est l'arrivée de méthodes empiriques. Des bases de données au niveau de l'incident, des essais randomisés contrôlés importés de la santé publique. Le GPAL, Innovations for Poverty Action, ces mêmes institutions qui ont révolutionné la lutte contre la pauvreté, appliquent maintenant la méthode à la prévention des conflits.
Reprenons le constat de départ. Le monde voit plus de conflits chaque année et l'essentiel des dégâts est concentré dans les pays en développement. Une guerre dans un pays industrialisé peut, à court terme, soutenir la croissance. Dans un pays pauvre, elle efface des décennies d'accumulation. Et le secteur du développement avait jusqu'à récemment une attitude presque fataliste. La guerre, c'est comme un cyclone, on subit.
Là, vous avez l'exact inverse de l'économie SpaceX Musk. Vous avez des gens qui mesurent, qui testent, qui acceptent que leurs intuitions soient réfutées et qui ajustent. Et ce qui m'intéresse pour le bien commun, c'est l'échelle. Le budget mondial de la consolidation de paix, tout bailleur confondu, c'est de l'ordre de quelques milliards par an, à comparer aux 1000 milliards de capitalisation de SpaceX. Et on parle là d'interventions dont on commence à savoir mesurer l'effet sur des vies humaines dans des pays où une guerre efface 30 ans de croissance.
Et l'article donne un exemple précis qui m'a fait sursauter. En Irak, les études empiriques ont montré que la situation d'emploi des jeunes hommes n'avait quasiment pas d'effet sur leur décision de rejoindre une insurrection. Or, l'USAID et beaucoup d'autres donateurs avaient investi massivement dans des programmes de création d'emplois précisément sur cette hypothèse. Donc, on a dépensé des milliards sur une intuition qui s'est révélée fausse à la mesure.
Et c'est exactement le genre d'investissement où, pour reprendre mon raisonnement habituel, le gain pour le plus grand nombre est massif par rapport au coût. Un programme de prévention de conflits qui réussit à éviter une guerre civile dans un pays de 10 millions d'habitants, c'est un retour social qui dépasse de plusieurs ordres de grandeur n'importe quel rendement de portefeuille boursier.
Le papier reste honnête sur les limites. La violence est rare et imprévisible, donc difficile à étudier expérimentalement. Recruter des acteurs violents potentiels dans une étude, c'est compliqué. Et certaines approches qui semblaient prometteuses, comme l'exemple de Monrovia que l'article commence à évoquer, donnent des résultats nuancés. Mais la direction est claire. On sait de plus en plus ce qui marche.
Je suis d'accord sur le diagnostic. Je nuancerai sur le mécanisme. Le capital qui va dans SpaceX n'est pas, dans la plupart des cas, du capital qui irait dans le peace building. Ce sont des circuits différents. Le vrai problème, à mes yeux, c'est ce que Doctorow met en évidence. La contamination de la décision publique par la logique du même. Quand un gouvernement coupe la recherche médicale parce qu'il croit aux promesses d'AGI, là, on a un transfert direct entre la sphère de la spéculation et celle des conséquences réelles. C'est ça qu'il faut endiguer.
Alors, qu'est-ce qu'on retient transversalement? Pour moi, c'est une question d'attention collective. La capitalisation mondiale a une dimension d'attention. Quand 1000 milliards se concentrent sur un actif, ça vient aussi d'un déficit ailleurs. Les ressources cognitives des élites financières, des régulateurs, des journalistes économiques sont absorbées par le feuilleton Musk pendant que des champs entiers de l'action publique mondiale, où l'on commence enfin à savoir ce qui marche, restent sous-financés et sous-couverts.
Je vais te dire que c'est un compromis institutionnel modeste face à l'ampleur du déséquilibre, oui, mais que c'est probablement le meilleur qu'on puisse voter mardi prochain, pour reprendre ta formule habituelle. Donc je signe.
Et c'est peut-être là qu'on diverge légèrement. Moi, je pense que le politique peut et doit taxer la rente spéculative et financer la science empirique du bien public. tu vas me dire que c'est un compromis institutionnel modeste face à l'ampleur du déséquilibre. On en restera là pour aujourd'hui.